demande de la population, c'est trouver en face de soi quelqu'un qui représente l'autorité publique, donc qui est en uniforme, à qui on peut faire état des problèmes du moment.
Bonjour à tous. Annoncée dans un premier temps pour le début de l'année, la police de sécurité du quotidien, la PSQ, ne sera finalement mise en place que dans le courant du mois de février, si tout va bien. Une quinzaine de villes devraient l'expérimenter. La création de cette PSQ a pour but avoué de rapprocher les fonctionnaires de police de la population. Interprétée par certains comme la résurgence de la police de proximité supprimée en 2003 par Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, la PSQ a fait l'objet d'une vaste consultation auprès des membres de la police et de la gendarmerie. Ils sont 70 000 sur un total de 250 000 à avoir répondu cet automne à un questionnaire pour définir leurs priorités. Le budget conjoint de la police et de la gendarmerie a été adopté à l'Assemblée, 19 milliards 220 millions, une hausse de 253 millions, 1,34%. Sur la durée du quinquennat, quelque 10 000 policiers et gendarmes devraient être recrutés. Marseille a largement expérimenté le rapprochement police-population ces dernières années autour de ce qu'on appelle les noyaux villageois, une centaine de comités de quartier. De gros moyens ont aussi été alloués dans plusieurs zones de sécurité prioritaires, les ZSP chères à Manuel Valls, pour un résultat contrasté. Surtout si on parle des cités les plus sensibles, celles des quartiers nord principalement. En dehors d'opérations coup de poing et des brigades spécialisées, il n'y a aucune présence permanente. Reportage à Marseille d'Emmanuel Leclerc et Gilles Gallinaro.
Interception, le magazine de la rédaction.
Vous voyez ?
Ouais, bah voilà. Ouais. On était sur un tentative d'homicide avec un 357 Magnum, du coup on était au taquet, donc on vient de finir.
Désolé d'avoir fait attendre.
Non, il n'y a pas de souci.
Ça s'est fini un peu plus tard que prévu.
Ouais, ouais, bah encore ça, j'ai pas fait trop d'orab, je sais pas quelle heure il est exactement, mais... Ah, mais c'est Marseille, hein. Moi je découvre, hein. Moi je me régale. Donc hier, pareil, on a eu, je t'avais pas dit, l'attaque à la hache, tout le monde a pris un peu plus bas, là. On est arrivé, donc, le mec il avait pris un coup de hache dans le bras et tout.
Ok, c'est la fête.
Bon, on est où là?
On est sur la Canebière, à côté commissariat.
Ça, voilà. Ça fait combien de temps que vous êtes dans ce commissariat dans le centre de Marseille du coup?
Alors, je suis arrivé dans ce commissariat il y a un peu plus de 3 mois.
Ça a été la chose la plus délicate de la journée?
De la journée? Non, on a été appelé aussi pour un problème dans un foyer où en fait, donc on est en début de mois. Et les gens au foyer ont souvent les aides qui tombent en début de mois, donc aux alentours du 5, 6, 7 du mois. Donc il n'est pas rare d'avoir dans ces foyers-là des bandes de jeunes qui vont les racketter pour récupérer les petites aides qu'ils ont. Donc c'est déjà des gens qui sont dans la misère, qui sont dans des foyers. Et il y a des bandes de jeunes, donc là ils étaient une trentaine, qui sont venus les racketter avec des bouteilles, des barres de fer, des couteaux, etc. Et en fait, ils se sont réfugiés dans le foyer. Le foyer nous a appelés. Bon, le temps qu'on arrive, évidemment, il n'y avait plus personne. On les a vus, ils étaient un petit peu au loin, nous insulter, nous envoyer des projectiles divers. C'est des situations où en soi, soit on y va en nombre, ce qui est rare parce que on est des équipages de 3. Même si on est 3 Superman, bon, ben 30, ça fait beaucoup et ils sont armés.
Vous n'avez pas l'air d'un Superman.
Voilà, non, concrètement, je ne pense pas pouvoir faire grand-chose à 3 contre 30.
Bon, vous avez forcément entendu parler beaucoup de la future police de sécurité du quotidien.
Oui, oui.
Est-ce que vous avez compris ce que c'était déjà depuis ces derniers mois?
Alors, la police de proximité ou la police du quotidien, elle peut avoir... sur le papier, quelque chose de très bien. C'est effectivement casser un petit peu cette frontière police-jeune, casser un petit peu ce côté la police est l'ennemi, parce que ben, quand vous allez avoir un policier qui va aller jouer au foot avec les jeunes, ben, ils vont se dire, putain, ils sont comme nous, ils jouent au foot, ils boivent des coups avec nous, c'est sympa.
Justement, c'est pas ça, c'est pas censé redevenir
c'est pas censé redevenir une police qui joue au foot. Mais si vous voulez, le problème, c'est qu'on manque d'effectifs. Là, en fait, quand vous êtes à Marseille, quand vous êtes au centre, vous êtes à la fois au sud et au nord. Vous avez un équipage qui est sur un accident. Vous en avez un autre qui est sur des constatations de cambriolage. Et vous avez une situation un peu chaude à traiter. Et là, au nord, ils n'ont plus personne. On y va en nombre et on essaie de faire redevenir l'ordre dans des cités ou dans des quartiers où ça porte peut-être un petit peu en live ou quand il y a des manifestations. Le côté vouloir recréer le dialogue, c'est bien sur le papier. Mais est-ce que c'est faisable? Je ne sais pas. Je sais vraiment pas. Est-ce que les gens seront aptes à venir discuter et auront envie de venir discuter avec la police? Je pense qu'il y en a, mais les gens qui viendront discuter et qui auront envie de faire ce travail avec la police, c'est pas des gens qui posent problème déjà à l'heure actuelle.
On connaît dans chaque hémisphère notre galopière, et partout elle est populaire.
Notre oui, bonsoir, c'est à nouveau Emmanuel Leclerc, on est devant votre porte.
Elle parle de port et
c'est pas
là.
C'était
la professeure.
Bonsoir,
la
madame.
Emmanuel.
Bonjour,
c'est vrai. Bonsoir, madame.
Avec ma femme, nous avons pendant 40 ans tenu des commerces. Et 4 commerces complètement différents. Donc les policiers, on les connaissait assez bien. En plus, j'ai été président des commerçants de l'Estac pendant un certain temps. Donc on avait un contact avec ces policiers. Les policiers, grosso modo, savaient qui faisait quoi. Et aujourd'hui, malheureusement, les policiers que nous avons, ben, ils connaissent quand même bien moins le quartier que cela. Ça, c'est sûr. C'est ce que je pense, du moins. Parce que quand on a des réunions, grosso modo, tous les 2 mois, c'est quand même une bonne initiative, ça. Hein, on a une réunion tous les 2 mois avec police nationale et municipale. On est là pour donner un petit peu les inconvénients ou les interventions que pourrait avoir la police sur certains trucs. Les voitures volées, les voitures brûlées, il y a tout un tas de trucs que nous, en tant que comité d'entrée de quartier, si une voiture brûlée est dans un coin, ben, le policier n'est pas obligé de le savoir. Nous, on le sait, pauvre géolocalisation, on envoie, c'est eux qui viennent enlever. C'est efficace, hein. C'est pas... Alors, ils nous disent, bien sûr, mais on passe, peut-être vous ne le voyez pas, mais nous passons quand même. Alors, si nous, on ne les voit pas, la population non plus ne les voit pas. Alors, ils nous disent, oui, mais c'est pas parce qu'on voit du bleu que c'est obligatoirement plus sécurisé. Nous pensons, nous, qu'un petit peu plus de bleu nous ferait du bien. Mais ils sont débordés. Même si vous les équipez bien, ils ont les voitures qu'ils ont, elles font pleurer. Elles font pleurer. Mais bon. Vous savez, quand vous voyez les voyous, qui ont des BM, des M5, et ils ont des Mercedes AMG, et que l'autre derrière, il a une Clio, on peut prendre l'autoroute, il est tranquille, hein.
Et la police de sécurité du quotidien, donc forcément, ça vous intéresse, quand même.
Moi, j'attends de voir. J'ai pas comme Saint-Thomas, mais pas loin.
Parce que vous l'aviez, en fait, en réalité.
Oui, parce que c'est bien de promettre des choses. Mais on nous en a tellement promis des choses. Après, on peut y baptiser le nom qu'on veut, on n'en a rien à foutre du nom. Franchement, si on nous la remet, parce que quand on les écoute, ils nous disent tellement que ça va être la 5e merveille, qu'on y croit un peu, mais un peu.
Il est en survêtement, une casquette sur la tête, un retraité sur la côte varoise, du moins en apparence. Serge Supersac est un ancien policier des brigades anticriminalité en Seine-Saint-Denis. Il est aujourd'hui réserviste, très actif dans des quartiers sensibles de Toulon et de la Seine-sur-Mer dans le Var. Serge Supersac est l'auteur d'une thèse sur les relations police-population et d'un rapport consacré à l'une des zones de sécurité prioritaire de Marseille en 2014.
Quelle est la bonne relation entre le policier et la population? On sait par exemple, au XIXe siècle, pour la gendarmerie, qui était quasiment isolée, sans argent, ou très peu payée dans les campagnes, il y avait une forme de connivence, de relation très proche avec les élus, avec le pouvoir politique local, avec etc. Ce qui faisait qu'en réalité, on traitait beaucoup des étrangers, c'est-à-dire des gens qui passaient, des vagabonds, etc. Mais par contre, on ne traitait pas des problématiques de violence intrafamiliale, etc. D'autres types d'infractions qu'on ne traitait pas. Donc, il y avait une trop grosse proximité. Bon, voilà. Aujourd'hui, on est effectivement en lévitation, c'est-à-dire que la police est en lévitation par rapport à sa population. Et donc, on passe à côté de la mission de police, parce que la mission de police, contrairement à la mission militaire, c'est une mission où on doit être en symbiose avec la population. On a essayé plusieurs dispositifs. Le premier dispositif était de revenir justement à une surveillance de la population qui était plus en lien avec un îlotier, c'est-à-dire un dispositif qui était né au 19e siècle, en fait, avec la naissance de la police dite ostensible, c'est-à-dire la police en uniforme. uniforme, qui avait la particularité qu'on la reconnaissait dans la rue et donc on pouvait aller la chercher pour régler les problèmes. Et en 99, ce qui se passe, c'est que donc le pouvoir politique, pour le coup, là, décide, contre vents et marées, de refaire de la proximité. Mais là, on ne va pas repartir sur un dispositif complet, îlotier, 19e siècle, etc. On se rend bien compte qu'il faut travailler différemment. En 2002, on a compris pourquoi ça s'est interrompu, hein, parce qu'il y a des élections, parce qu'il y a une autre doctrine qui venait en opposition à celle-là, etc. Et ce qui est amusant, ce que j'ai souvent tenté d'expliquer à quelques élus, aux politiques divers que je rencontre, c'est que personne n'a compris ce qui avait fonctionné entre 1999 et 2002. Moi-même, je l'ai découvert beaucoup plus tard, en 2005. Et ce qui avait fonctionné, c'est que, en fait, le policier, il n'était pas gentil. Il n'était pas particulièrement gentil dans le quartier. C'était pas un policier plus gentil que celui de la BAC, en fait. C'était juste un policier efficace. Et en fait, son efficacité...
L'image du policier qui joue au foot...
C'était une image d'Épinal. C'était pas du tout ça qui se passait. Les 6 premiers mois avaient été très compliqués pour se réinstaller physiquement dans le quartier. Là, on s'échappe pas avec la voiture. On va pas voir sur une autre intervention. On est dans le quartier. Et on passe sa vacation dans le quartier. Et là, c'est un autre métier. Alors du coup, on apprend beaucoup, évidemment, sur ce quartier. On découvre la population qu'on ne connaît pas, en fait. Si on ne fait que passer, on ne la connaît pas. On peut avoir aussi de l'empathie par rapport à cette population parce que, bon, il y a des difficultés. Enfin bref, le policier a un œil complètement nouveau sur ça et tous les policiers me disaient la même chose à peu près. Donc le fonctionnement était toujours le même. Pendant 6 mois, ça avait été très compliqué parce qu'il fallait se réapproprier le quartier au travers des fameux jeunes qui, eux, étaient les seuls à ne pas voir ça d'un très bon œil. Mais ils sont quand même entité ultra minoritaire dans chaque quartier. La population, c'est pas qu'elle n'aime pas la police dans les quartiers. Au contraire, la population adore la police dans les quartiers. Simplement, elle se méfie de sa potentielle inefficacité. Donc c'était compliqué pendant 6 mois. Après, ils étaient accueillis à bras ouverts par la population. Et donc du coup, ils détenaient un renseignement opérationnel que personne d'autre ne détenait. Et donc ça les rendait efficaces. Donc, où ils traitaient eux-mêmes, où ils faisaient traiter. C'est-à-dire que c'était pas la peine de courir à 3h du matin derrière machin qui avait fait une boulette. On savait que c'était lui, donc on allait le chercher à 6h du matin, tranquille. Il y a l'initiative policière qui redevient le mini-juge de paix dans un quartier. Et c'est important, le mini-juge de paix dans un quartier. C'est pas qu'un statut, c'est vraiment une fonction. Et en tout cas, c'était des policiers heureux et qui se sont retrouvés coquifiés en 2002, où tout le dispositif a été retiré. Et eux, ils avaient eu un investissement énorme.
Et là, en l'occurrence, on leur a dit, c'est bon, les assistantes sociales et les joueurs de foot, c'est bon.
C'est ça, parce que personne n'a compris ce qui se passait, en fait. Parce que, encore une fois, le politique n'a pas compris. Les uns disaient, mais non, mais c'était des policiers gentils, et il est nécessaire d'avoir des policiers gentils. C'est pas du tout ça. C'était des policiers efficaces. Et les autres disaient, non, mais s'il y a plus de voleurs, il faut faire plus d'arrestations, on n'a pas le temps de jouer au foot. Donc, ce qui n'est pas non plus une vérité établie. La prévention et la répression, c'est intimement lié, en fait.
Parce que là, c'était pas que Marseille. On va parler là maintenant de Marseille, qu'à Marseille, il y a une unité donc de prévention urbaine, le UPU, qui a perduré malgré tout.
Tout à fait. Au départ, ils étaient eux exclusivement sur la problématique de violence urbaine. Mais rapidement, ils débordent de la problématique de violence urbaine et ils se rendent compte que c'est les mieux informés, les policiers les mieux informés de Marseille sur les quartiers, en fait. Et donc, on fait beaucoup appel à eux. Bon, on le traitait un peu d'assistance sociale, mais ils avaient le respect quand même parce que c'était les seuls qui rentraient sans armes en civil dans le quartier, quoi. 2005, pas de violence urbaine sur Marseille. Alors, évidemment, on a tout de suite fait valoir le triptyque OM, soleil, mer. Bon, ben voilà, c'est Marseille, c'est particulier, donc il n'y a pas de violence urbaine au sens violence urbaine. Parce que le soleil, là, maintenant, c'est parce qu'il y a des policiers qui travaillent depuis 1991 dans les quartiers. Ils sont en nombre très, très limité, puisqu'ils sont, l'effectif de l'unité de prévention urbaine fluctue entre 13 et 15 policiers, enfin c'est absolument ridicule. En 2005, justement, ils ont évité, par exemple, une mise à sac d'un centre commercial qui était prévu, mais les policiers étaient avisés, donc ils étaient là avant l'arrivée des jeunes, enfin voilà. Tout un tas d'histoires, en fait, qui passent complètement de manière anodine, etc. Et en fait, l'UPU a perdu.
Il y en a qui disent l'UPU.
Ouais, l'UPU. Ouais. Enfin, l'UPU, je trouve pas ça très heureux, mais peu importe. C'est le concept qui est le plus intéressant. Ils sont toujours dans les policiers les plus informés de Marseille. Et on ne veut toujours pas communiquer autour de ces policiers.
Je vous confirme. On a effectivement demandé, essayer d'avoir un reportage sur cette petite unité, cette mini unité.
Mini structure.
Ça n'a pas été possible.
Au-delà des unités spécialisées de prévention et d'enquête de la police nationale, la ville de Marseille s'appuie sur la plus importante police municipale de France avec ses 450 agents. Des policiers municipaux que l'on voit patrouiller chaque jour, mais pas dans les quartiers ou les cités les plus sensibles. Leur action la plus spectaculaire, leur présence permanente essentielle, fut sur les plages ces deux dernières années face à des phénomènes de bandes d'adolescents. Les opérations conjointes menées avec des médiateurs, Noureddine Bougrine est le directeur de l'association Dune.
La médiation, c'est qu'à un moment, essayer de faire comprendre les choses. Comprendre, par exemple, quand vous avez des minots qui sont dans le bus, qui occupent tout le bus, qui crient, qui arrivent et qui vont sur la plage et qui commencent à être très présents. Et à un moment, c'est de faire redescendre cette tension-là qui, à un moment, peut monter très vite. Et quand la tension, elle est montée, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué que d'échanger et de bouger sa position. Ces 30 minots, quand vous les prenez un par un, c'est des enfants. Les enfants, vous leur dites, oh, regarde, tu vois, ta mère, elle est avec ton petit frère, elle va là-bas, tu aimerais... Ah non, non, non. Ben voilà. C'est nos outils, c'est la parole. Et en aucun cas, la coercition, on ne veut pas être à un moment reconnu comme étant force de police ou garde champêtre, surtout qu'on n'a pas de champ, mais garde balnéaire, voilà.
Est-ce qu'il y a des médiations, comme on a vu sur les plages, est-ce qu'il y a des médiations pour certaines cités, justement?
Ah si, oui. C'est un gros dispositif sur lequel nous sommes, 5 opérateurs. On s'est mis tous autour de la table, et sur un dispositif qui est financé par les bailleurs, la ville et l'État, qui porte un dispositif de 80 médiateurs. Nous, c'est 13 personnes qui sont dédiées à ce service-là, dont Youssef, voilà, qui est le chef de service de ce dispositif-là. Et donc, l'objectif, c'est vraiment remettre du lien dans des endroits où certaines problématiques ont fait que les gens se sont recroquevillés sur eux-mêmes. Nous, on arrive à 3 ans du dispositif. Et en tout cas, nous, opérateurs, on est très satisfaits de ce qui s'est passé. Et, par exemple, on prend des secteurs où à un moment, au cœur du quartier, les gens traversaient et rentraient chez eux. On n'y va pas avec le drapeau. Non, on y va petit à petit. On se fait accepter par le territoire doucement. Au bout d'un an, on a vu des gens. Ils ressortaient de l'école primaire. Ils allaient chercher leurs enfants. Et ils s'arrêtaient sur la place. La place sur laquelle on avait mené au fur et à mesure des cafés citoyens, des petites activités, quelque chose de simple. Mais il ne faut pas des outils très élaborés, mais il faut vraiment, par contre, une volonté de recréer le lien. Voilà. Donc maintenant, on se retrouve sur un espace qui a été réapproprié par les habitants. Je veux dire, pour nous, c'est une réussite. Nous, c'est un indicateur clair de réussite.
On est loin de la police de sécurité du quotidien ou pas, en fait?
Après, la police, c'est autre chose. C'est d'autres missions. Hein. C'est faire respecter la loi, la police. Hein. Je pense que ce serait très compliqué de venir et de ne pas s'inscrire dans ce qui est déjà fait. Parce que ce qui est déjà fait commence à porter ses fruits.
Bonjour.
Bonjour.
Monsieur.
Merci de nous accueillir dans votre ancienne mairie.
C'est toujours ma mairie. Hein. Elle n'est pas ancienne pour moi, toujours au présent.
30 août 2012. France Inter.
Encore un assassinat donc à Marseille. Il s'est produit hier soir dans les quartiers nord de la ville. La victime est un homme de 25 ans, connu des services de police. Certains élus prônent la méthode forte. C'est le cas de Samia Ghali, sénatrice socialiste des quartiers nord de la ville, les maires des 15e et 16e arrondissements de Marseille. On l'écoute.
La ville va mal et elle va mal. On est à notre 19e meurtre depuis le début de l'année. L'année n'est pas terminée et les gens aujourd'hui sont inquiets. Et oui, c'est une situation qui est insupportable et intolérable dans la deuxième ville de France.
C'est pour ça que vous demandez l'intervention de l'armée ?
Mais écoutez, l'armée, c'est en fonction de la situation. Je dis que si l'armée doit venir en aide, eh ben, il ne faut pas s'en priver.
Écoutez, ce qui compte pour moi, c'est que tout le monde réagisse. Voilà. Et c'est vrai que j'ai dit l'armée, parce qu'on m'expliquait à chaque fois que je vous rencontrais ministre, j'avais rencontré Hortefeux, j'avais rencontré Guéant. Ah, mais ils disent, on n'a pas assez d'effectifs. Eh bien, alors envoyez l'armée. Si vous n'avez pas assez d'effectifs, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Donc je m'adapte à ce qu'on me dit. Voilà. Et bon, quand on voit aujourd'hui à ce qu'on sert l'armée, eh bien, on s'aperçoit que finalement, elle était utile.
Il y a quand même eu pas mal d'opérations coup de poing, mais de la police.
Il y a eu des opérations coup de poing de la police, des CRS. Il y a eu un nombre suffisant de CRS, c'est-à-dire qu'on a rajouté beaucoup de police sur Marseille, parce que le fait d'avoir réclamé l'armée, ça a obligé aussi les ministres de l'Intérieur à, puisqu'ils m'avaient dit que c'était pas possible, qu'on n'était pas en guerre, d'être obligés de ne pas se contredire eux-mêmes en échouant sur cette question. Donc du coup, ils ont mis tous les moyens.
Et aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on a régressé en termes de moyens. On a perdu 2 compagnies de CRS. On avait 3 compagnies, on n'en a plus qu'une.
Là, vous faites quoi aujourd'hui là ?
Alors, aujourd'hui, c'est une association du CrossFit, voilà, une association sportive, à qui on a obtenu des locaux dans un endroit où on avait de gros problèmes avec trafiquants de drogue, délinquance, une nouvelle cité, où les gens n'en pouvaient plus parce qu'ils se font brûler les voitures à l'intérieur de leur garage, cambriolage, trafic de drogue, enfin bon, toute la délinquance qui commence à s'installer. Et du coup, on a mis cette structure au niveau de l'intérieur de la cité pour que, justement, on mette de l'activité et on permette à ce que ces cités ne soient pas investies par des gens qu'on n'a pas envie de voir, mais plutôt par des gens qui mettent de l'animation. Les trafiquants de drogue n'aiment pas. Voilà. Chaque fois qu'on laisse un endroit mourir, parce qu'on enlève les services publics, parce que les gens n'osent plus sortir de chez eux, tout ça, c'est à ce moment-là qu'ils s'installent et qu'ils prennent la place.
Pour le coup.
Là, en tout cas, on est en train de le faire. C'est en train de porter ses fruits. Donc voilà, on y travaille. On a mis de la vidéosurveillance. On a demandé, il y a la police qui est intervenue aussi, les habitants. On a mobilisé tout le monde. Quoi. Voilà.
Ça fait très police de sécurité du quotidien, tout ça, au sens large.
Après, si c'est ça la police de sécurité du quotidien, nous on l'a déjà mis en place, mais on n'avait pas le choix, c'est que contraint et forcé. Je vous ai dit, c'était un système D. Avec de l'énergie, trouver des gens, des acteurs sociaux qui ont envie de s'y mettre. Là, vous avez M. Willy Sacco, qui est c'est lui le champion de CrossFit. Voilà, ça se voit d'ailleurs. Regardez.
Moi, je suis un mec de la rue aussi. J'étais comme tous ces jeunes-là. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que sa mère m'a donné cette mission. J'ai fait des conneries étant jeune. En ayant fait toutes ces conneries, je me dis que c'est quelque part une manière de payer ce que j'ai fait, quoi. D'aider tous ces jeunes-là à sortir de là où ils sont. Donc j'ai fait ce boulot-là, j'ai commencé au Noblard Boxing 15, je ne sais pas si vous connaissez.
Non.
Je travaillais avec Noblard Boxing 15 avec Claude Faure et Farid Mouhelli, qui sont eux aussi des grands éducateurs, qui aident beaucoup les jeunes de quartier, qui sont tombés, qui sont ressortis. Il y a des jeunes qui ont les bracelets qui viennent. Donc moi, j'ai travaillé avec ces gens-là qui m'ont, eux, donné ma chance d'entraîner aussi. Donc de ce côté-là, j'ai pris plein de jeunes que je savais qui partaient un peu dans un autre chemin. Je les ai récupérés, j'ai fait des choses avec eux. Dont avec certains, on a gagné des championnats de France, de boxe et tout, éducatifs, qu'ils ont fait pas mal de choses. Et eux, ils continuent cette mission-là. Moi, j'ai pris leur maman.
Vous avez aidé les enfants et maintenant vous aidez les mamans.
Voilà.
Ça aussi, c'est important.
C'est important.
Parce qu'il y en a certaines qui ont subi des choses.
Enfin, moi, je l'ai vécu. Si vous voyez votre mère, elle est retranchée et tout, ça vous donne une haine contre tout ce qui se passe autour. Donc, qu'est-ce que vous faites ? La haine que vous avez, vous l'amenez dans la rue. Donc maintenant, si vous, votre mère, elle est bien psychologiquement, ça va vous mettre bien parce que vous allez vous dire, ça va, j'ai pas besoin de faire ça. En fait, il n'y a pas que des mauvaises choses, en fait.
C'est quoi, éventuellement, demain matin ?
À 11h, on sera là.
Franchement, l'ambiance il est bien, Willy c'est un bon coach, les profs sont sympas et franchement, même qu'il pleut, il neige et à la tempête, on a toujours envie de venir. Alors.
Ça vide aussi, ça permet de ne pas penser au reste.
Voilà, de partir, la mère au foyer, les enfants, tout ça, on le met un peu de côté et on vient s'occuper un peu de nous. Quoi. De temps en temps, ça fait du bien. On est souvent relégué à la vie de maman, à la cuisine, le ménage, le mari, les enfants. Et là, c'est le moment où nous, on se libère de tout ça.
La cité, ça peut être compliqué.
Voilà, la cité aussi. On habite dans le 15e, voilà. Mais quand on arrive ici, on oublie tout, quoi, en fait. On est là, on fait du sport. Même que c'est dur, on s'accroche. Et on a des personnes qui nous poussent aussi à dépasser nos limites. Et c'est ça qui est bien.
Voilà. Ils sont là pour nous. Quoi après,
eh ben, ils y sont aussi. Je les ai inscrites aussi.
Les enfants, ça va?
Oui, ça va. L'école, ouais, l'école, ouais, franchement, ça va. Et elles ont 12 ans et 7 ans, ça va. Tranquille. À l'extérieur aussi, il n'y a pas de problème. Voilà. Là, je les ai mis au sport, elles ont adhéré aussi. Alors, du coup, toute la famille font du sport. Et c'est bien. Parce que d'habitude, c'est tellement cher qu'on n'arrive pas à s'inscrire, on n'arrive pas à inscrire tout le monde. Mais là, c'est tellement accessible à tout le monde qu'on peut se permettre d'inscrire 2, 3, 4 personnes de la même famille.
Sinon, on n'aurait pas eu les moyens.
Ah non, c'est pas possible. Moi, je ne travaille pas en ce moment. Je travaillais pendant 15 ans dans une entreprise et j'étais licenciée. Là, je ne bosse pas. Et c'est sûr que si c'était dans d'autres clubs, je n'aurais pas pu y aller. Enfin, ce n'est pas possible. En plus, il y a les facilités de paiement. Il est vraiment. Voilà.
Vous avez la pêche pour essayer de retrouver du travail?
Oui, oui. Il n'y a pas de souci, je me repose un peu un mois, après je repars, il n'y a pas de problème.
Merci beaucoup.
De rien. Ciao tout le monde. Ciao. Allez, G.
Pascal Ponce, enseignant à Saint-Louis-le-Rovin, à Marseille, dans les quartiers nord. Et je suis aussi responsable syndical de la CGT. Et j'ai été membre du collectif des écoles de la Castellane, en fait, suite aux fusillades qu'il y avait eu, alors c'est en 2014, il me semble. Je me mélange toujours d'une année, mais il me semble que c'est 2014.
Dans le cadre de votre mandat syndical, vous êtes allé dans pas mal de cités, justement, et vous avez vu des cités encore plus mal en point que celles dans lesquelles vous avez enseigné.
Oui, il y a des cités, alors moi j'y entre toujours par l'angle éducation et par l'angle école. Dans lesquels les collègues font un travail assez remarquable et c'est quasi héroïque quoi, ce qu'ils font dans les conditions dans lesquelles ils travaillent. Il y a un arrangement vis-à-vis par exemple de leur voiture qu'ils garent avec les personnes du quartier pour pas qu'elles se fassent abîmer, etc. Donc, mais parce qu'ils sont connus par les habitants du quartier, parce que les habitants du quartier généralement agressent pas les personnes qui viennent s'occuper de leurs enfants et tout ça. Mais par contre ils sont vraiment en confrontation avec des problèmes sociaux qui sont assez immenses, puis avec des règlements de compte autrement plus violente et parfois des jeunes qui se font abattre assez froidement.
Les enfants que vous voyez chaque jour, est-ce que vous trouvez qu'il y a un rapport à la police qui a un peu changé ou pas?
Il y a des enfants clairement qui ont vu des choses qu'ils n'auraient pas dû voir. Là j'ai l'image d'un enfant en CM2 avec qui je lui demandais des explications sur le vocabulaire. Je lui ai demandé ce que c'était une lumière vive et il a un petit moment de réflexion et il me dit « Ah oui, c'est comme quand les policiers entrent dans ta maison et te mettent la maglite dans la tête. » Et ensuite, quand il continue de parler, il m'explique qu'il avait vu un policier mettre l'arme sur la tête de son père. Il me demande si c'est normal. Je lui réponds que si les policiers viennent en intervention, c'est assez normal qu'ils viennent armés. Et ensuite, il me dit « Mais par contre, est-ce que c'est normal qu'ils aient traité ma mère de pute ?» Et là, déjà, je lui ai dit que non, c'était pas normal. Mais clairement, il avait, lui, déjà une représentation de la police à cet âge-là, qui était celui de personnes qui viennent, qui mettent l'arme sur la tempe et puis qui insultent ses parents, quoi. Une année, j'ai eu un élève qui avait beaucoup, beaucoup de mal à rester tranquille dans la classe. Donc je me demandais pourquoi. J'ai fini par le demander aux parents. Et puis le parent m'a dit qu'en fait, l'enfant ne sortait pas parce qu'il avait très peur que l'enfant soit dans la rue avec justement les trafiquants et tout ça. Donc contrairement à ce qu'on pense, les parents, ils font très, très attention et ils sont très, très bien conscients des dangers qu'il y a dans la rue.
Et c'est un problème, du coup, puisque les gamins ne peuvent pas faire ce qu'ils devraient faire, normalement.
C'est ça, ça se répercute très clairement dans le travail, dans la relation qu'ils ont aussi à l'espace, à pouvoir rester enfermés dans un lieu clos, etc. Forcément, ça y joue énormément. Il y a des troubles de l'attention. Je pense que le nombre de troubles de comportement qu'on a dans les écoles de ces milieux-là, il vient très certainement, à mon avis, de cette extrême, je ne sais pas comment dire. Mais,
parce qu'en fait, ils restent trop enfermés.
Pour certains, quand vraiment c'est un quartier qui est pris par un réseau, en effet, ils restent trop enfermés parce que les parents sont très vigilants à ce qu'ils ne soient pas en contact avec.
Ça se sait moins.
Ça se sait moins parce que généralement, quand on parle des gens de ces quartiers, on dit qu'en fait, ils laissent leurs enfants traîner et tout ça, alors qu'en fait, les parents sont comme ailleurs, quoi. Ils ont envie de protéger leurs enfants. Et y compris même parfois des parents qui sont eux-mêmes dans le trafic et tout ça, ils protègent leurs enfants de ces choses-là. Ils n'ont pas forcément envie que leurs enfants soient exposés à ces choses-là. Donc c'est beaucoup plus complexe et on a souvent tendance à présenter les choses où c'est tout noir, où c'est tout blanc, mais en fait les choses sont très, très grises, quoi.
Au cœur de Marseille, dans le quartier du Panier, le siège de l'évêché, devenu celui de la police judiciaire marseillaise, relié par un long corridor au bâtiment de la direction départementale de la sécurité publique. Les patrons des deux grandes institutions, à la PJ, Éric Arella, et à la sécurité publique, Jean-Marie Salanova, ont accepté le principe d'un entretien croisé pour un bilan d'une action anti-drogue conjointe inédite dans plusieurs quartiers de la cité phocéenne. Des pratiques policières qui ne sont pas sans lien avec la future PSQ, la police de sécurité du quotidien, y compris selon eux, au pied des barres d'immeubles tenues par des caïds et leurs guetteurs.
Là maintenant, on a totalement décloisonné, je dirais, les unités STUP. On a des stratégies d'approche et de lutte sur certaines cités. On l'a fait à la Castellane, on l'a fait sur la cité des Lauriers. Il y a effectivement des trafics qui s'opèrent dans ces cités, mais également sur les cités environnantes. Donc il y a besoin effectivement de faire la filière d'importation, qui est souvent dévolue à la police judiciaire, mais il y a besoin aussi de mener à bien le trafic interne à ces cités, qui est fait plus particulièrement par la sécurité publique.
Nous livrons aux magistrats des données croisées qui permettent d'entrer davantage, plus vite et plus fort dans le trafic. Juste un chiffre. Pour les 11 premiers mois de l'année 2017, pour ce qui est de la sécurité publique à Marseille, nous avons augmenté de 40% le nombre de trafics élucidés et de trafiquants interpellés. Nous doublons le nombre d'enquêteurs qui travaillent sur les stupéfiants.
Est-ce que ça a permis concrètement sur le terrain de réduire les trafics ou pas? Parce que évidemment tout le monde vous dit bah non, ça continue à vendre au pied des immeubles, il y a toujours évidemment le même nombre de guetteurs, ou est-ce que ça végète un peu plus? On n'est pas du tout sur le même volume d'affaires, est-ce que c'est ça que vous voyez ou pas?
On donne les moyens à la justice d'augmenter la qualité de la répression. Et on le voit à travers un certain nombre de peines dans des procès récents que vous savez, qui ont permis effectivement des résultats non négligeables.
C'est le procès des Lauriers, par exemple, le dernier en date.
Qui est une affaire qui a été menée à bien en mai 2015, avec un procès tout à fait exemplaire, puisque la démonstration, c'est du guetteur jusqu'à l'importateur. On a réussi à démontrer toute la structure du réseau, avec des pénalités de plusieurs années de prison.
Avec 28 personnes au total dans le box des accusés.
28 personnes, effectivement, ont été jugées et condamnées. Et si j'ai bonne mémoire, je crois que la principale était condamnée à 14 ans.
Ce travail conjoint permet de faire davantage de grosses affaires, puisque c'est ce que les habitants demandent. Et ça, c'est à mettre en lien avec la police de sécurité quotidienne. L'intelligence d'une organisation, c'est de faire en sorte que l'on soit disponible au maximum pour pouvoir aller vers les gens. Bien évidemment, il faut des implantations de police de proximité, et toutes les implantations de police de Marseille ont été maintenues. Bien évidemment, est-ce que la situation est complètement apaisée à Marseille? Bien évidemment que non, mais s'il n'y a pas eu d'explosion majeure, c'est peut-être aussi que l'on n'a pas oublié de continuer à attraper des délinquants, puisque être au contact de la population, c'est quelque chose de primordial. Mais la population attend aussi que l'on mette les délinquants hors d'état de nuire et qu'on les présente au juge.
À 3 km à peine de l'évêché du siège de la police judiciaire, un parking pas très éclairé en soirée, près de la Castellane, dans la zone industrielle du port de Marseille.
C'est quoi ?
Une BMW noire, vitre teintée, vient tester ses capacités de dérapage contrôlé. Nous avons rendez-vous avec deux dealers âgés d'une vingtaine d'années. L'un des deux jeunes caïds porte un bracelet électronique. Entretien avec un micro discret dans ce quartier où la plupart des dizaines de revendeurs de drogue ne sont plus au pied des immeubles de la cité de la Castellane, mais au carrefour de toutes les petites ruelles en descendant vers la zone portuaire.
Ce que je peux te dire, c'est que mon point de vue avec l'approche qui va être de la police de proximité, ce que ça signifie, et aussi avec les nouvelles organisations qu'il y a dans les quartiers pour les plans sup, c'est plus la même qu'il y a 5 ans, même 10 ans. Ça veut dire que c'est, entre guillemets, depuis qu'ils sont partis, on va dire que c'est vraiment redevenu l'omerta. Alors que pour qu'ils y reviennent, entre guillemets, va falloir du temps encore. Mais beaucoup de temps. Même.
C'est ce que je disais.
Mais beaucoup, beaucoup de temps, je pense. Le temps qu'ils sont partis, ça va être le temps qu'il va falloir pour qu'ils reviennent, pour se réadapter à ce qui se passe maintenant dans les cités. Même s'ils ont beau casser tous les grandes tours, etc., pour faire de plus en plus petit, les petits grandissent avec de nouvelles idées et encore plus violentes et super violentes.
Impressionnant. Ouais, quand même. Même vous, même...
Bon, les gars, je vais aller, moi, parce que j'ai plus trop le temps.
Merci beaucoup, en tout cas. Ouais.
À Marseille, malgré plusieurs opérations anti-drogue spectaculaires ces dernières années, 40 cités sensibles sont encore socialement structurées par les trafics de drogue, selon le dernier rapport du CIRASCO, le service d'analyse du crime organisé de la police judiciaire en France. Dans l'une d'entre elles, un résident a fini par craquer l'été dernier. Il est actuellement en détention provisoire en attendant son procès. Nous avons décidé exceptionnellement de diffuser le témoignage de cet homme qui n'avait pas de policier de sécurité du quotidien au pied de son immeuble.
Ah, je pense que moi, si ça aurait existé dans le quartier, je pense que peut-être je ne serais pas là.
C'est-à-dire ?
Ça veut dire que peut-être s'ils auraient fait leur travail dans le quartier comme c'était... Peut-être que moi, je n'aurais pas eu des problèmes comme ça.
Vous avez eu quoi comme problème ?
J'ai tué quelqu'un. Voilà. En face de chez moi, il y avait un réseau de drogue. Et ça me rendait la vie impossible à tous les voisins, à tout ce qu'on habite dans le quartier.
Pourquoi ça vous rendait la vie impossible ?
Vous savez, moi, j'étais agent hospitalier. Je commençais, tous les soirs, je commençais à 5h du matin, j'ai ma femme qui me renvoie malade. Quand vous êtes toute la journée chez vous, que vous ne pouvez même pas écouter la télé chez vous, que vous ne pouvez même pas vous reposer, que vous avez votre femme qui est malade. Après, ça devient, comment vous dire, c'est particulier. Vous ne pouvez même pas descendre en bas de votre bloc. Vous n'êtes jamais bien, que vous soyez dehors ou que vous soyez chez vous. Après, moi, j'ai eu un peu des problèmes avec les jeunes en face, tout ça. Et ça fait que 15 jours avant mon histoire, j'ai reçu un impact de tir chez moi.
Ah, vous aviez été menacé ?
Menacé, si on veut, pas directement, parce que... indirectement, on va dire.
Mais vous aviez pas appelé la police, justement, avant, pour vous plaindre ?
La police, ils venaient même pas dans le quartier.
Le trafic était trop petit ou il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a rien eu ?
Non, c'est pas qu'il n'y a pas d'enquête. À Marseille, c'est particulier, vous savez. Hein. À Marseille, la police, elle vient quand il arrive quelque chose. Tant qu'il n'y a rien, elle ne vient pas.
Et donc, vous avez fini par vous faire justice vous-même ?
C'est pas que j'ai fait justice moi-même. Je n'ai pas voulu en arriver là. Je ne suis pas un justicier. C'est un accident qui m'est arrivé. Moi, j'ai voulu faire peur. Et en faisant peur, le coup est parti. Et voilà, et j'en suis là. Parce que j'ai pas voulu faire justice, je suis pas justicier, moi, monsieur.
Vous l'avez regretté aussitôt ?
Bien sûr que je l'ai regretté aussitôt, monsieur. Moi, j'ai été animateur sportif toute ma vie, je suis pas un tueur. Hein. Je suis une simple personne, capitaine moulant.
Et la personne en face, elle avait quel âge ?
Elle devait avoir la trentaine passée.
C'était qui, le chef du trafic ?
Non, c'était peut-être quelqu'un qui faisait partie du réseau, j'en sais rien. Hein.
C'est vous qui vous êtes rendu aux policiers ?
Oui, c'est exactement ça. Je me suis rendu dès que j'ai appris que la personne était décédée, je me suis rendu.
Et là, vous disiez que vous étiez avec votre femme qui était malade. Qu'est-ce qu'elle est devenue depuis ?
Eh bien, ma femme est toujours dans le quartier. Ils sont toujours en danger là-bas et voilà, ils sont menacés, ils habitent toujours là-bas.
Et vous avez été condamné à combien d'années de prison pour ça ?
Pour l'instant, je ne suis pas condamné. Je risque 25 ans de prison.
Là, on arrive devant l'Université de sociologie d'Aix-en-Provence. Et c'est là que se trouve Laurent Micheli, le professeur, sociologue, spécialiste des pratiques policières et qui est à la tête de l'Observatoire régional de la délinquance et des contextes sociaux, qui est assez unique en France et qui a été le seul à évaluer précisément les fameuses ZSP, les zones de sécurité prioritaires, entre 2012 et 2015.
Ce qu'on a constaté, nous, dans nos évaluations de petites ZSP, c'est que le trafic démantelé, on revenait trois semaines après et il y en avait un autre qui avait pris sa place. Et c'est fatal. Tant que ça fera vivre des centaines de milliers de paysans dans la vallée du Rif au Maroc, il n'y a pas de raison, vous voyez. Et puis il y a aussi une autre raison, de toute façon, qui est cette absurde politique de prohibition sous laquelle nous vivons. La prohibition, c'est la politique de l'autruche. C'est interdit, donc tout va bien. C'est une blague. Tout va très mal, il y a de plus en plus de drogues en circulation, ça fait vivre de plus en plus de monde, les consommations également, etc. Personne ne dit qu'il faut tout dépénaliser, tout rendre légal, que chacun fait ce qu'il veut, youpla boum, pas du tout. La position de la plupart des gens qui ont un peu travaillé la question, c'est de dire il faut réglementer. Ce qui aurait l'immense avantage de vider d'une partie de sa substance. l'ensemble de ces trafics.
Là, on va verbaliser.
Alors là, on va verbaliser ce qui, à mon sens, est une fausse bonne idée. Ce que je vois bien là-dedans, c'est l'idée de réduire le volume de procédures qui encombre la justice correctionnelle. Ce qu'on oublie, c'est toujours pareil, c'est vu d'un bureau à Paris, il y a des choses qui paraissent simples. Vu du terrain, c'est souvent un peu plus compliqué. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut se retrouver avec un équipage de police qui va trouver des gens qui fument du cannabis dans l'espace public. On va pas les chercher chez eux. Et la différence, c'est que au lieu de leur faire un contrôle ou éventuellement de temps en temps d'en embarquer un, puisqu'effectivement, on ne va pas systématiquement, sinon on ferait que ça toute la journée, il va leur dire « Ok les gars, c'est 200 euros ». Et on pense que par ailleurs, ça va permettre de mettre en place la police de sécurité quotidienne et que ça va améliorer les relations police-population. C'est une plaisanterie. Parce que d'un point de vue policier, le but d'améliorer la relation police-population, c'est pas pour avoir une bonne image. Le but policier réel de la bonne relation avec la population, c'est de pouvoir recueillir du renseignement. Or, on s'évertue à faire le contraire. La preuve par le drame et par l'absurde. L'attentat du 14 juillet 2016 à Nice. La ville où il y a le plus de vidéosurveillance, de police municipale armée, organisée pour imiter la police nationale, le terroriste avec son camion dont le tonnage est interdit sur la promenade des Anglais, etc., a fait une quinzaine de repérages au nez à la barbe des caméras, personne n'a jamais vu. La seule chose qu'on a, c'est des images après coup, formidable. Puis on fait l'enquête, et au fil des semaines, ils s'aperçoivent que le type en question, oui, il y a un certain nombre de signes que des gens de son entourage, car il y a un entourage néanmoins, il y a des voisins, il y a des commerçants, il y a le mec du bar PMU, le machin, bon. Des gens ont perçu des changements, ont dit, machin, etc. Sauf que la police, elle, ne l'a jamais su. Voilà. Alors, par exemple, les 120 personnes qui sont enfermées toute la journée dans à regarder des écrans de caméra, en réalité, pour faire essentiellement de la vidéo-verbalisation, hein, ce qui se passe dans toutes les grandes villes, Marseille, c'est pareil, voilà. Ben, au lieu de faire ça, moi je dis, il faudrait peut-être les mettre sur le terrain, à faire de la vraie police de proximité, c'est-à-dire du contact avec la population pour recueillir du renseignement. Et on peut le faire en uniforme. La demande de la population, c'est trouver en face de soi quelqu'un qui représente l'autorité publique, donc qui est en uniforme, à qui on peut faire état des problèmes du moment. Ses principales armes, ça va être un téléphone portable avec un répertoire très large, beaucoup de contacts pour savoir que tel problème, c'est pas un problème de police en fait. Pas de problème madame, il faut que vous appeliez le représentant du bailleur social, c'est monsieur machin, voilà son téléphone par exemple. Le lendemain, la même dame ou le même monsieur qu'il croise dans la rue, qui lui a observé le soir un va-et-vient étonnant, et ben, il va le dire au policier. Vous savez, hier soir j'ai vu machin, cave numéro 7. Le policier, il va aller vérifier la cave numéro 7. C'est comme ça, tout simplement, hein. Encore une fois, humainement, concrètement, sur le terrain, c'est de ça dont il est question.
Osso, tu es de retour au quartier?
Ah, je suis juste là deux semaines.
Tu te rappelles notre promesse avant que tu partes faire tes études à Lyon?
Ah ouais, bien sûr.
Alors tu fais comme on a dit. Moi je ramène les sous, toi tu ramènes ton diplôme.
Sinon c'était mon frère, moi aussi. Et Wallah, il sera vengé, fais-moi confiance.
Dis-moi quand.
Moi je veux des mecs comme toi, frère. Je veux des mecs posés, des commerciaux, des mecs qui réfléchissent. Maintenant qu'on a commencé, on peut plus reculer. La marche arrière, elle est cassée, mon frère.
Il est où, mon fils?
Que j'en sais.
Tu crois que j'ai peur de toi? Oh là, on sera vraiment bête.
Mais regarde-toi, Zo. Tu es comment? On dirait ton frère.
Chauffe.
Anissa. Je suis la présidente du comité de quartier de la Viste. Je suis au conseil citoyen. Je suis la vice-présidente de Jardin Partagé à la Viste. Et je suis administratrice au centre social de la Viste. Voilà.
Vous avez vu le film Chouf?
Oui, je l'ai vu. C'est exactement la vie quotidienne dans les quartiers qui sont touchés par ça. C'est ce que je ressens.
Toujours aujourd'hui.
Au jour d'aujourd'hui, ouais.
Anissa, nous parlait de... je lui demandais si elle avait vu le film Chouf.
Oui. Ah, ouais. Elle aussi, elle a un quartier aussi, à Viste.
T'as été beaucoup vue, justement, dans
les... Moi, je suis allée avec...
Quartier,
franchement, il y a des parents qui veulent pas montrer ça à leurs enfants.
Et vous, vous dites?
Moi, je crois que c'est une leçon. De montrer comment, avec cette économie souterraine, tout le quartier vit.
C'est ça,
c'est ce que j'ai compris.
C'est l'histoire de ce grand frère qui a fait des études,
voilà.
Et qui vient venger la mort de son petit frère.
Il se tue entre eux.
Et après, il se tue entre eux.
Voilà. Ah oui,
c'est triste.
Les familles, frères de leurs enfants. On entend le matin, Malheureusement, c'est, ouais. On est rentré dans notre quotidien. Je suis toujours.
Ah oui, mais ça fait partie.
Ah ben aujourd'hui, il y en a un tien qui s'est fait plomber dans le journal. On a vu, voilà. Ah bon, et ben alors, on fait le bilan. Alors chaque fois, chaque année, on fait les bilans. Ah ben tiens, on en est au 24e depuis le début de l'année. On en est. C'est pas normal. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Et c'est un système mafieux, hein, mafieux. C'est un système mafieux, voilà. Donc il faut que ça s'arrête, quoi. Ça s'arrête.
Vous avez l'impression que ça ne change pas, ça?
Non. Écoutez, moi, j'habite à La Viste depuis 2010, et j'ai acheté un petit appartement là-bas, et je voyais que le quartier se dégrade. Donc j'ai bataillé pendant 5 ans pour réactiver le CIQ, parce que le CIQ, c'est le trait d'union entre les habitants et les institutions. Et là, depuis 2 ans, on est là, on bataille. Tous les mois, on fait le tour de quartier. On va vers eux, les jeunes, on discute. Ils sont gentils, hein, ils sont adorables. Mais bon.
Ouais, l'impression
que... Moi, ce que je... excusez-moi, je vais être méchante, mais c'est les parents que j'accuse. Comment ton enfant, il ne va pas à l'école et il est assis toute la journée sur une chaise. Et tu le vois avec des baskets, des pulls neufs. Tu ne te poses pas de questions d'où ça vient l'argent.
Mais si ça paye le loyer?
Mais je crois que c'est une économie souterraine où tout le monde en profite. Je pense que tout le monde en profite. Pour voir aussi, c'est qu'il y a un manque de culture générale dans les quartiers nord. Moi, ce que je souhaite, c'est que devant toutes les écoles, il y aura quelque chose qui les attire. Je veux dire, une caravane où il y a de la lecture, où il y a de l'animation. Là, ça n'existe pas. Il n'y en a pas.
C'était Marseille, l'esquisse d'une sécurité au quotidien, un reportage d'Emmanuel Leclerc, prise de son Gilles Gallinaro, mixage Basile Beaucaire, réalisation Michel Soulier, assisté de Stéphane Combe. À la semaine prochaine!